Régis Chaumont préside le syndicat des architectes. Il est notre invité.
Très exactement, une fédération de syndicats d'architectes, et c'est avec grand plaisir que je le reçois. Bonjour Régis Chaumont.
Bonjour François.
Nous allons parler avec vous architecture et urbanisme, et vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec Éric Pierrot, qui est le trésorier de votre union fédérale. Bonjour Éric.
Bonjour François.
Nous
bonjour.
Allons parler aussi avec vous de votre métier et surtout de l'interrogation que vous portez auprès des candidats à la présidence actuellement, où l'architecture et l'urbanisme sont véritablement des domaines qui sont quasiment absents. Première question, Régis Chaumont, qu'est-ce que c'est très exactement l'architecture ?
L'architecture, c'est avant tout la conception des espaces de vie et la conduite de leur réalisation. C'est-à-dire que ça nous touche au quotidien. Dès que l'on rentre dans un espace, une ville, on rentre dans un espace architecturé, plus ou moins bien, et en général mieux avec les architectes.
Avec un mot qui manquait dans votre définition, celui de construction.
Oui, mais la conduite forcément. De l'organisation. Donc la réalisation, ça, c'est il faut prendre en compte désormais à la fois les techniques de construction, les techniques actuelles, les techniques innovantes, et en plus tenir compte de la manière dont elles vont comporter pendant toute la durée de vie du bâtiment, y compris lorsque, à la fin du bâtiment, il faudra le démolir. J'avais un professeur à l'école d'architecture qui me disait: il faut savoir les ruines que vous allez produire.
Et l'urbanisme, c'est la racine, c'est la ville ?
Oui, ou c'est l'assemblage de tous ces éléments d'espace de vie. C'est-à-dire que même s'il y a de la belle architecture, s'il n'y a pas un urbanisme réfléchi avant tout, ça ne fait que juxtaposer des objets. À Aix-en-Provence, on voit des réalisations qui se superposent, qui se mettent les unes à côté des autres, notamment lorsqu'on prend la direction de Nice, à droite, à gauche de l'autoroute, on a un entassement de bâtiments qui ont peut-être de l'architecture, mais aucune composition urbaine.
Et là, on touche à des domaines sensibles qui sont effectivement les domaines des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols, et puis maintenant les schémas de cohérence territoriale, autrement dit les PLU, les POS, les POS et les SCOT. Ce sont des sigles qu'il faut chasser un peu de notre langage, mais qui veulent dire beaucoup de choses pour vous. C'est surtout des sigles et qui contiennent énormément de contraintes pour les architectes.
Alors, avant tout, ils dessinent nos paysages. En 1967, on avait la loi d'orientation foncière qui a fait les plans d'occupation des sols jusqu'aux années 2000. Et si vous avez des quartiers denses, si vous avez des maisons étalées dans le territoire, c'est directement la conséquence de la manière dont a été rédigé le plan d'occupation des sols. Désormais, on a les plans locaux d'urbanisme avec l'idée de densification, c'est-à-dire d'occuper l'espace déjà construit afin d'éviter l'étalement urbain. Bon, il faut le voir avec intelligence parce que la problématique est différente à Manosque ou à Paris. L'étalement ou le fait de pouvoir accompagner la nature, c'est totalement différent et on a une réglementation qui est encore très centralisée.
Avec aussi des aspects des bâtiments qui sont très différents en fonction de la culture des territoires ou des matériaux qui sont utilisés dans les territoires.
Alors là, il faudra quand même mettre un petit bémol sur la construction provençale telle qu'elle se fait depuis une cinquantaine d'années. Qu'y a-t-il de provençal dans les petits pavillons disséminés dans les lotissements ?
Rien.
Merci.
Voilà, j'ai répondu.
Voilà.
Rien. Non, ce sont des maisons qu'on va trouver à Lille ou à Amiens ou à Bordeaux et qu'on trouve aussi à Manosque. Donc là, on a vraiment besoin d'un architecte, si vous voulez mon avis. Effectivement, cela dit, des chalets sur la Côte d'Azur, c'est pas terrible non plus. Donc il faut respecter ces cultures paysagères et urbanistiques un petit peu partout. Éric Pierrot, vous avez été pendant quelques années président de cette fédération de syndicats d'architectes. Qu'est-ce que ça représente, cette fédération ?
Ça représente une vocation particulière des architectes à s'inquiéter de leur environnement et des gens qui vivent dans cet environnement. Et donc, c'est un peu notre côté humaniste qui ressort. Et on se préoccupe beaucoup de tout ça. Et on est très isolé dans notre profession. parce que la plupart de nos entreprises sont de petite taille et notre activité est très morcelée, très dispersée dans le territoire. Donc un syndicat, c'est un moyen de se retrouver, de se regrouper, d'échanger et de s'enrichir mutuellement les uns les autres.
De peser aussi éventuellement sur l'administration, voire sur le politique, puisqu'on est en campagne actuellement.
Oui, on essaye évidemment tout ça, et c'est un combat qui est très difficile parce qu'on a souvent peu d'audience, donc c'est le besoin de...
D'où l'intérêt de votre passage ici aujourd'hui. c'est une bonne chose. Est-ce que c'est un syndicat qui est représentatif auprès de votre corporation, entre guillemets?
Oui, évidemment, il a la chance, ce syndicat, d'être constitué d'une quarantaine, cinquantaine de petits syndicats locaux. Donc on est très proche des architectes
sur le terrain.
On maîtrise bien les problématiques très locales, et en même temps ces petits syndicats locaux qui connaissent bien leurs problématiques locales se regroupent au niveau national à Paris, et on échange de tout ça ensemble, et c'est vraiment une richesse énorme, et on couvre le territoire d'une façon très large et très significative.
Et votre fédération en profite pour questionner les candidats à l'élection présidentielle. D'abord, comment vous expliquez cette absence de référence à l'architecture et l'urbanisme qui nous concerne tous, hein, dès qu'on est dans la rue, on est confronté à un urbanisme, dès qu'on veut éventuellement se loger, on est confronté à des questions d'architecture et d'urbanisme, donc tout le monde est concerné par cette problématique et qui pourtant est absente.
Alors elle était déjà absente en 2012, il y avait quasiment...
C'est donc pas nouveau.
Voilà, quasiment aucune ligne sur l'architecture. Nous avions au niveau national, et c'est là qu'on essaye de peser et qu'on y arrive un petit peu, interpellé déjà François Hollande en 2012, qui nous a répondu le 2 mai 2012. Et je peux vous dire que la lettre qu'il nous a envoyée le 2 mai 2012, on s'en est servi pendant 5 ans. 5 ans, et cela a peut-être servi à faire naître la loi LCAP, qui est une loi sur l'architecture de 2006. Donc, si vous voulez, le fait d'agir, même si les architectes n'ont pas un énorme poids, il faut toujours poser des questions, toujours les interpeller. Et effectivement, en 2017, on n'a pas d'éléments sur l'architecture, mais nous avons préparé des questions et on attend les réponses de pied ferme.
Alors, quel type de questions vous avez préparées, justement?
Alors, les questions sont assez denses. Hein. Il y a 8 domaines. Et 16 questions. Et ça va de la formation à l'exercice professionnel dans le public, au désastre de l'intervention de l'architecte dans le privé, où 70% des constructions se font sans architecte.
Alors on va en revenir là-dessus. Hein.
Voilà. Oui. Ça va également sur la culture, puisque je fais souvent l'expérience d'interpeller des étudiants de Sciences Po en leur demandant de citer des architectes, et ça dépasse rarement 2 ou 3 personnes. Donc on n'a aucune culture architecturale, aucun enseignement de l'architecture en France. Donc, et ça, on en a besoin à la fois pour les usagers, à la fois pour les pouvoirs publics qui organise l'espace. C'est absolument nécessaire que cette culture soit renforcée. Donc ça fait partie de nos interpellations. Et après, on a différents problèmes pratiques. Par exemple, dans notre région qui est sismique, aujourd'hui, une construction qui se fait sans l'architecte respectera très rarement les normes parasismiques. Et nous leur demandons de faire une expérience, pourquoi pas dans les Alpes-de-Haute-Provence, de faire conduire les chantiers par les architectes pour montrer qu'on arriverait enfin à faire respecter cette réglementation.
Comment peut-on avoir un permis de construire si on ne construit pas en fonction de la nature du sol et effectivement des risques sismiques dans notre département, puisque vous citez le département? Est-ce que c'est possible, ça?
Oui, parce que le permis de construire, notamment depuis la réforme de 2007, c'était totalement limité à des questions d'urbanisme et non pas à des questions techniques. Donc il n'y a aucun contrôle sur la construction, la réalisation de la construction. Et si vous n'avez pas un architecte indépendant et responsable sur sa propre activité pour pouvoir conduire sa réalisation, on voit des aberrations. Je suis expert à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de cas catastrophiques.
Alors, dans ces cas-là, il faut évidemment faire une étude de sol, il faut faire intervenir plusieurs autres branches spécifiées, spécialistes dans le cadre de la construction. Comment ça se passe, l'architecte et le maître d'œuvre, le chef d'orchestre un petit peu de tous ces métiers?
Oui, l'expression chef d'orchestre est très imagée parce que on fait appel à des premiers violons dans tous les domaines, c'est-à-dire des gens très compétents, mais pour pouvoir arriver à conduire l'opération, le fait de diriger cette équipe de maîtrise d'œuvre permet d'avoir une harmonie dans la conduite et la réalisation du projet.
Et en même temps, il y a un sustain qui va durer pendant 10 ans. C'est bien
oui,
ça.
Tout à fait. L'architecte, c'est la seule personne responsable sur un projet de construction du premier trait de crayon quand on rentre dans son agence jusque plus de 10 ans après la fin des travaux, voire parfois 30 ans dans certains cas de figure très particuliers.
C'est ce qu'on appelle la garantie décennale. Revenons un peu, si vous voulez bien, sur les logements privés qui se privent justement des services d'un architecte. Je pense que ça vous fait réagir, évidemment.
Bien évidemment, parce que il y a un lieu commun en France de considérer l'architecte comme un luxe qui vient s'ajouter à la construction, alors que l'architecte est toujours une économie. C'est une économie dans la qualité de la conception du départ, c'est une économie dans la définition technique quand on met les entreprises en concurrence, raisonnable hein, la concurrence bien évidemment, pour pouvoir obtenir des offres très précises sur des études bien définies, et également dans la conduite de la réalisation pour vérifier que toutes les prescriptions sont correctement mises en œuvre.
Donc c'est une garantie, mais c'est aussi une responsabilité.
Une responsabilité énorme et parfois qui nous tient, qui peut nous mettre un peu à l'écart des particuliers parce qu'on leur expose tellement dans le détail toutes les responsabilités, toutes les questions techniques qui vont se poser que s'ils vont sur un marchand de foire à plan de campagne. Toutes les maisons qui sont rassemblées, et puis on vous vendra un peu la maison comme un petit pain. Et la maison, c'est le premier investissement dans la vie de quelqu'un, et il faut que ça soit fait très sérieusement.
Avec des garanties, évidemment, aussi bien sur la construction que sur la place, l'aménagement, etc., etc. Il y a d'ailleurs plusieurs types d'architectes. Il y a des architectes d'intérieur aussi qui existent, peut-être même des architectes paysagers. Enfin, c'est une profession qui est assez vaste.
Oui. Mais il faut bien retenir que l'architecte inscrit à l'ordre des architectes est le seul dont on vérifie des compétences et dont on vérifie les assurances et la formation, et c'est une véritable garantie pour les usagers. Bien évidemment, les architectes d'intérieur, je pense aussi aux techniciens tels les acousticiens, quand on voit la Philharmonie de Paris et la qualité qu'il peut y avoir, bon, tout le monde participe à ceci. Revenons à l'usager. Dans les petits projets, l'avantage d'avoir recours à un architecte, c'est que comme il est immergé dans toutes ces questions techniques, même si on n'aura pas un acousticien ou un spécialiste de tel domaine pour son propre projet, l'architecte abordera cette question et pourra bien mieux orienter le projet que quiconque.
Il peut travailler aussi avec des confrères qui ont plus de spécialités que lui dans certains domaines.
Alors c'est ce à quoi je m'attache en tant que président de l'Union nationale des architectes, c'est de développer les réseaux pour pouvoir identifier les compétences dans les domaines et mettre en relation les architectes qui ont des spécialités et des connaissances. Ça, le partage des connaissances, c'est la plus grande richesse dont on puisse faire bénéficier notre clientèle.
Avec des dossiers innovants comme par exemple le développement durable, les économies d'énergie, etc., etc., ce dont on nous rebat les oreilles et qui parfois vous fait frémir quelque part, Eric.
Oui, alors bon, je voudrais d'abord réagir au titre d'architecte. Je ne mets pas du tout en cause les compétences des architectes d'intérieur, les architectes paysagistes, etc. Mais par contre, je trouve qu'on entretient une confusion qui est préjudiciable aux particuliers parce que, effectivement, tous n'ont pas les mêmes garanties, les mêmes responsabilités.
On peut se dire architecte paysagiste sans avoir un diplôme.
J'ai eu fréquemment l'occasion. Alors, bien entendu, diplôme d'architecte. Oui. Parce qu'on peut avoir un diplôme de paysagiste, on peut avoir un diplôme de décorateur ou de...
Qui sont des métiers tout à fait honorables.
Tout à fait, ouais. Parfaitement. Mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'il y a de très bons professionnels. Mais par contre, c'est ce qui me gêne, moi, c'est toujours cette espèce de duperie entre... on a l'impression qu'on a affaire à un architecte. On se dit, j'ai mon architecte. Eh ben non, quand il y a un problème sur un chantier, on s'aperçoit que, ah ben, il n'est pas architecte. Ah, il n'est pas assuré. Ah, il... voilà.
On a
il
n'y
a pas de garantie décennale.
On a les mêmes confusions dans le domaine de la médecine, par
exactement,
exemple.
Exactement.
Avec certains
exactement,
métiers.
Voilà. Donc, ceci dit, les domaines de l'innovation, l'architecte est quelqu'un qui est obligé de se remettre en question sans arrêt, parce que les techniques évoluent. Elles évoluent doucement dans le bâtiment. On n'est pas dans le registre de la technique, technologie automobile ou aéronautique, etc. Mais, quoique... Aujourd'hui, on voit fleurir effectivement beaucoup de constructions qui utilisent des matériaux nouveaux qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. C'est pas un phénomène nouveau. On a eu déjà l'occasion de le subir ou de le vérifier auparavant. Et aujourd'hui, effectivement, la mode est au développement durable qu'on appelle l'architecture environnementale ou...
Des bâtiments de basse consommation, par exemple,
alors,
des choses comme les ça.
Voilà. Donc, il y a des choses très vertueuses. Et puis, il y en a d'autres qui le sont moins. Aujourd'hui, moi, je vois les bâtiments, effectivement, devenir plus économes en énergie. Ça fait quelques années déjà.
C'est une bonne
chose. On va plus loin. Et c'est là que se développent, effectivement, beaucoup de recherches. Et c'est quelque chose de tout à fait positif. Parce qu'effectivement, on ne peut plus consommer sans regarder et avoir des coûts de fonctionnement hallucinants sur des bâtiments publics comme sur des petites maisons individuelles. On connaît tous le problème. Donc, ça, c'est un côté très positif. Après, moi, ce que j'apprécie un peu moins, c'est effectivement l'utilisation de matériaux qui sont de l'ordre de l'obsolescence programmée, quoi. Aujourd'hui, un bâtiment, quand on le construisait, c'était pour 50 ans. Aujourd'hui... 10 ans, ça sera, à mon avis, un grand maximum.
C'est juste pour la garantie, quoi.
C'est juste pour la garantie, exactement.
Donc, c'est vrai que ça peut refroidir les candidats à l'innovation et, en tout cas, les propriétaires éventuels.
Tout à fait, tout à fait. Donc, les architectes, pour moi, mon exercice professionnel est quand même de garantir une pérennité maximale à mes bâtiments et utiliser des matériaux fiables et éprouvés pour éviter de tomber dans les aberrations qu'on a pu avoir avec l'amiante, par exemple, qui était à l'époque un produit qu'on mettait partout parce que c'était très
bien.
Produit miracle, exactement. Oui, ça tenait au feu, c'était isolant, etc. C'était génial.
Et ça produit des cancers.
Et voilà. Alors après ça, on a eu la laine de verre qui aujourd'hui commence à être décriée. Demain, ça sera la laine de roche, ce sera le polystyrène, ça sera tout ce que vous voulez, qu'on est en train de tartiner de partout sur nos bâtiments sans limite pour faire de l'isolation thermique, effectivement, avec de bonnes intentions. Mais moi, je réfléchis beaucoup plus à ces principes de mise en œuvre de manière à éviter de faire de grosses erreurs.
Sans parler de l'investissement des lobbies qui sont extrêmement puissants dans ces domaines.
Bien évidemment.
Régis Chaumont, parlons un petit peu de la commande publique et des appels d'offres et de ce qu'on appelle dans le milieu le mieux-disant, qui n'a pas été si mieux que cela.
Le principe de la règle du mieux-disant, c'est très simple, c'est-à-dire que on tient compte des qualités, des compétences des intervenants en même temps que le prix, et il y a dans les notes d'examen des offres un rapport entre le prix, les compétences et les références. Et bien évidemment, ou malheureusement, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, le prix écrase trop souvent les autres qualités. Alors c'est valable à deux niveaux.
C'est à ce niveau qu'on parle de moins 10 ans d'ailleurs.
Voilà.
Aussi.
Et donc ça concerne à la fois le choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Hein, quand on parlait tout à l'heure de tous les spécialistes, ça devient l'équipe de maîtrise d'œuvre avec en général comme mandataire l'architecte et concevoir et conduire le projet. Il faut savoir que ça représente moins de 1% sur la durée de vie d'un bâtiment, les études et la conception. Si on regarde au moment de la construction, bien évidemment, il y aura des taux de 10, 12, 13, 16%. bon, qui ont tendance maintenant à arriver au ras des pâquerettes, et on ne peut plus faire tourner les agences d'architecture, on ne peut plus embaucher les personnes pour faire le boulot, on ne peut plus être présent sur le chantier quand on est dans la compétition au moins 10 ans. Donc ça, c'est une catastrophe. Alors que si on regarde le bâtiment sur la totalité de sa vie, moins de 1%, c'est-à-dire que toutes les qualités des études vont à la fois exister dans la réalisation du projet, mais également après, dans sa mise en service, sur 30, 40 ou 50 ans. À côté de ça, donc ça c'est la règle de la concurrence des marchés publics, on a par exemple l'aberration des partenariats publics-privés. Heureusement, on n'est pas trop concerné dans les petits projets, mais le stade de Lille, Martine Aubry sera plus maire depuis longtemps quand les
Lillois continueront,
les Lillois continueront à payer. Et ça, des exemples, vous en avez des centaines en France. Hein. Donc, on donne l'illusion de faire des économies et de faire le financement d'un investissement public, et on endette nos enfants à plus en finir. Donc, c'est pour ça que le principe actuellement que l'on a en France, qui nous est envié d'ailleurs par quelques pays européens, du concours de maîtrise d'œuvre dans les bâtiments, dans les projets publics, est très sain, même s'il prend un peu plus de temps, même s'il est un peu plus difficile au départ, il arrive à une qualité de choix qui est incomparable. Donc ça, c'est au niveau de la maîtrise d'œuvre. Et puis, bien évidemment, cette notion de mieux ou moins 10 ans, elle se reproduit après dans le choix des entreprises qui vont réaliser. Alors là, en général, les maîtres d'ouvrage font quand même bien attention à ne pas choisir une entreprise avec laquelle il va y avoir de gros problèmes de chantier, parce que ça se sait très vite.
Et après, ça fait la une des journaux, ce genre de choses. On le voit bien, malheureusement, et avec des gens qui se font arnaquer, et c'est un malheur. Vous avez ce que je retiens de votre intervention, c'est le fameux 1% pour les études, des études qui sont fondamentales quand on veut construire ou aménager un endroit. Et donc, le côté post-construction, c'est-à-dire que si ces études sont mal menées, vous allez avoir des problèmes, des soucis à la fois des malformations ou en tout cas des vices de forme, des choses assez conséquentes. Vous l'avez signalé tout à l'heure, vous êtes expert auprès du tribunal, vous constatez ce genre d'erreurs régulièrement?
Oui, alors bien évidemment, et on les constate à deux niveaux. On les constate dans la réalisation technique, mais on les constate aussi dans la facilité d'exploitation. Je ne vais pas aller sur un exemple négatif, mais plutôt, je pense, positif, c'était la réalisation du centre des congrès de Gréoux-les-Bains, qui a été un chantier très important, avec un mur en béton qui a fait frémir toute la population.
C'est vous qui l'avez réalisé ?
Oui, tout à fait.
Il faut le signaler, donc.
Merci, François. Et donc, avec un mur en béton qui avait fait peur à la population inquiète de voir le béton s'ériger dans la ville. Puis après, Paul Audan, le maire de Gréoux, qui m'avait dit un jour « C'est peut-être un petit peu grâce au centre des congrès de Gréoux que j'ai été réélu. Voilà. » Donc, et puis maintenant, il est en fonctionnement, et c'est un plaisir d'avoir le retour sur le fonctionnement de la salle de spectacle, de la salle de théâtre, etc. Il paraît qu'il va même y avoir un nouveau cinéma encore à Gréoux-les-Bains. Je sais pas si...
On verra, on suivra ça, mais en tout cas, ça rend un service à la fois social et culturel important sur la commune. Mmh. Et ça, c'est quand même effectivement le fruit du travail à la fois des élus, on va dire des habitants de manière directe, puisque c'est eux qui ont choisi leurs élus aussi. Mmh. Et c'est leurs impôts aussi qui payent ce genre de choses, et évidemment le travail des professionnels dont vous êtes vous-même architecte, et les constructeurs autour du projet. Donc l'architecture au service des habitants, c'était l'élément premier de mon intervention. J'étais ravi de vous avoir tous les deux ici même. Merci Eric Pierrot. Et puis on va signaler que vous êtes nos voisins quasiment, hein, ici même dans le bâtiment boulevard des Tilleuls à Manosque, et qu'on est ravis de vous croiser de temps en temps. Et au moins aujourd'hui, on a eu l'opportunité de développer avec vous votre métier, votre beau métier. On a besoin des architectes dans notre ville. Voilà. Merci Régis, merci Eric. Et puis on rappelle donc votre syndicat. On peut avoir des informations sur votre syndicat et éventuellement la suite que vous des réponses des candidats à vos questions.
Oui, alors ça s'appelle l'Union nationale des syndicats français d'architectes, UNSFA. Le site internet est en cours de rénovation, donc il y a les informations, mais dans la présentation, on aura besoin d'expérience et de votre avis, par exemple, pour nous donner des bons conseils.
On vous le donnera. Merci Régis Chaumont, merci Eric Pierrot. Voilà, c'est la fin du journal. Merci aussi Evan pour la régie. Bonne journée à tous et à demain.
Merci François, une bonne journée à tous et à demain. Au revoir.